Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir un livre qui, dans votre bibliothèque, qui se termine par « Pour les nuls ». Levez la main. Ouh, oui, quand même, pas mal, hein. Vous savez qu'il y a la Bible pour les nuls aussi, hein, écrit par Éric Denimal, ou le protestantisme pour les nuls aussi, par Éric Denimal. Oui, beaucoup de livres qui se termine pour les nuls. Alors je ne sais pas si... Alors ça marche bien, hein, cette série de livres. Mais je ne sais pas si on est toujours content d'être considéré comme un nul. Pas vraiment, quand même. On préfère, de loin, être considéré comme quelqu'un de doué. Doué comme ce petit enfant de 4-5 ans qui joue déjà aux échecs. Eh bien... Oui, on préfère être doué que nul. Eh bien, sans vouloir tomber dans la démagogie, c'est ce que la Bible nous dit. Vous êtes doué. Vous êtes doué. Oui, toi aussi. Toi aussi, sans pointer du doigt, hein, mais toi aussi. Toi aussi qui doute, peut-être, du fait d'être doué. Et la Bible le dit depuis le début, le Premier Testament. Moïse, tu es doué pour faire sortir le pays d'Égypte et Aaron, ton frère, est doué pour parler en public. Bezalel est doué pour construire le tabernacle dans Exode 31. Néhémie est doué pour la construction des murailles de Jérusalem. Jonas est doué pour la pêche sous-marine. Et pour l'évangélisation de Ninive, surtout. Tous ces gens du Premier Testament sont doués pour faire quelque chose en particulier, et ils l'ont fait, et ils l'ont plutôt bien fait. Et dans le Nouveau Testament, Paul le dit aussi aux chrétiens de Corinthe. Vous êtes doués, et ça tombe bien, nous faisons une série de prédications sur la première lettre que dans les années 50, 55, après Jésus-Christ, Paul envoie aux chrétiens de Corinthe. Et il faut se souvenir que ces chrétiens de Corinthe sont des chrétiens de première génération, et qu'ils sont plutôt d'origine païenne. Il y a des chrétiens d'origine juive, et des chrétiens d'origine païenne, et là, à Corinthe, c'est même... carrément d'origine païenne, tous les chrétiens, et ils reçoivent la bonne nouvelle de l'Évangile, comme ça, directement. Mais ils n'ont pas des parents chrétiens pour leur dire ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas de livre dans leur bibliothèque, la foi chrétienne pour les nuls, par exemple, pour leur dire ce qu'il faudrait faire. Et ils doivent, en quelque sorte, avec la bonne nouvelle, inventer la vie chrétienne qui va avec. Vous vous souvenez, c'était la pub pour Clio. La voiture Clio. Et donc, ils avancent, ces Corinthiens, par essai et erreur, et peut-être plus par erreur même. Ils ont des problèmes à gérer la sexualité, ils ont des problèmes d'ordre social, les riches méprisent les pauvres, il y a des erreurs dans la vie d'église, il y a des erreurs relationnelles. Et à tous ces chrétiens qui balbutient leur vie chrétienne, Paul va leur dire « Hé, les amis, n'oubliez pas que vous êtes doués. » Mais comme à Corinthe, rien ne se passe comme ailleurs, même dans l'utilisation de ces dons, dans la gestion des dons, ils vont rencontrer des problèmes, et donc Paul va consacrer quelques chapitres à leur en parler, et en particulier le chapitre 12 de 1 Corinthiens, donc une série que nous avons commencée en avril dernier, on est au chapitre 12. J'en viens à la question des manifestations spirituelles. Ouh. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce même et seul esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser, et à un autre de se distinguer entre les esprits, à l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes, et tous ces organes dans leur multiplicité ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul corps, dans un seul et même esprit, pour former un seul corps. Ah, on aime ce livre aux Corinthiens. Pour parler de ces dons spirituels, je vais mettre en exergue quelques mots. Et le premier mot qui apparaît dans la version du Semeur, que nous utilisons le plus souvent ici, la Semeur a traduit « manifestation spirituelle », en ce qui concerne les manifestations spirituelles. Mais littéralement, on n'a qu'un seul mot, « spirituel ». En grec, « pneumatikos ». J'en viens au problème des spirituels, ou des pneumatikoi au pluriel. J'aimerais, frère, que vous soyez bien au clair là-dessus. Et donc, vous remarquez tout de suite que cette expression « pneumatikoi » vient du mot grec « pneuma », souffle, vent, esprit, qui a donné en français « pneumatique ». Mais « pneuma », l'esprit, les spirituels, les gens soufflés, inspirés. Et donc, il y a un lien entre les dons et l'esprit. On parle de dons spirituels. Et le passage le signale clairement, c'est l'Esprit, l'Esprit Saint, qui opère toutes ces choses et qui en fait la distribution. Verset 7. On parle de manifestation du Saint-Esprit. Et par les dons, se manifeste donc l'action du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que tous les dons sont tous spectaculaires, sensationnels, extraordinaire. Mais le mot spirituel montre qu'il s'agit de quelque chose dont l'esprit se saisit pour le mettre au service de Dieu. Peut-être quelque chose de très pratique, de très simple, mais utilisé par l'esprit pour Dieu. Ces dons spirituels, ça peut être des dons ou des talents même naturels qui sont aussi donnés par Dieu, mais qui seraient par après récupérés par l'Esprit Saint, dans le but du service de Dieu. Moi, je me souviens, dans une église au nord de l'Europe, pour ne pas dire à Bruxelles, il y a très longtemps, il y avait un ami une dizaine d'années de moins que moi, qui, à l'époque, était musicien dans un groupe trash. Vous vous souvenez, le trash ? Il était chrétien, le trash, ça veut dire ordure, poubelle, en anglais. Et donc, c'est pas du métal, c'est plus loin que le métal. Et c'était inaudible, ces concerts. C'était horrible. Mais le Saint-Esprit s'est saisi de Axel van de Zande, en un mot, ce qui fait la différence entre les noms belges et les noms hollandais, bref. Et il jouait du blues le dimanche matin dans nos cultes portes ouvertes, nos cultes d'invitation. C'était tout doux et c'était magnifique. Et on faisait ça, et il faisait ça pour que les visiteurs apprécient la bonne musique et soient ouverts à l'annonce de l'Évangile. Les capacités de récupération du Saint-Esprit sont énormes. Du trash à l'Église. Ce qui fait dire à Alfred Kuhn, que j'appelle l'oncle Alfred, qui a écrit 150 livres, tout un don spirituel, c'est toute aptitude donnée par Dieu dans la mesure où elle a été arraché, j'aime bien ce mot, arraché par l'Esprit de Jésus-Christ à l'usage égoïste et placé au service de l'Église. Définition d'un don spirituel. Il y a un deuxième mot qui désigne les dons spirituels et qui revient d'ailleurs le plus souvent au verset 4. Il y a diversité de dons, mais un même esprit, et c'est le mot « charismata », en grec, qui a donné en français le mot « charisme », qui veut dire « don ». « Charis », Mais charis tout seul, c'est la grâce. Ma, c'est l'expression concrète de la grâce. Charisma, c'est l'expression concrète de la grâce. C'est comme si la grâce de Dieu venait exploser dans notre vie et se fragmenter en petites gratuités. Le don de la grâce, le don des dons spirituels. La grâce de Dieu, disait Michael Griffiths, un Anglais, qui est à l'origine, enfin c'est le Seigneur, mais il a été l'instrument pour mon appel à la vocation, mon appel au service de Dieu, en janvier 1980, à Lausanne. Il parlait à l'Église. Et lui, il dit, la grâce de Dieu, la charisme de Dieu, enfin les dons spirituels, c'est comme la grâce de Dieu, la charisme de Dieu qui passe au travers du prisme de l'Église et qui se décompose en grâce ou dons divers et variés, les charismata. Et j'aime bien cette image du prisme, vous voyez, un trait qui arrive sur la gauche et puis qui passe à travers le prisme qu'est l'Église, et là, on a une multiplicité de couleurs. Alors ce mot « charisma » a donné « charismatique », qui désigne un mouvement où on veut remettre l'accent sur les dons de l'esprit, et c'est bien. Il faut toujours remettre l'accent sur les dons de l'esprit, mais le problème avec ce mot et ce mouvement charismatique, c'est qu'on a l'impression que ce mouvement confisque un petit peu aux autres la possibilité de s'intéresser aux dons aussi. Alors que toutes les églises sont charismatiques. Toutes les églises ont reçu des grâces, des charismas, de la part de Dieu. Et donc, le mot charisma contient l'idée de grâce et donc de gratuité, et donc aussi l'idée d'une grande humilité dans leur exercice. C'est Dieu qui donne. Je ne vais pas donc me prendre la grosse tête. Paul le dira plus loin, dans 1 Corinthiens 4, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Parce que les Corinthiens avaient un problème d'ego surdimensionné. Je vous ai dit, l'église de Corinthe, c'était pas terrible. Et on est content qu'elle soit là, comme ça on peut toujours se comparer et se dire, ça va pas si mal. Mais elle est là aussi pour nous dire, attention, il y a des risques. Et donc ils étaient avec un ego surdimensionné, un peu comme les joueurs de foot français, et néerlandais, et brésiliens. Et belge aussi même, ils ont la grosse tête, le gardien là, je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, et avec l'expression pour les joueurs de foot là, que j'ai appris dernièrement, ils ont pris le melon. Ils ont pris le melon, la grande tête, la grosse tête. Et les chrétiens de Corinthe se croyaient, eux, ils ont pris un peu le melon, mais le melon spirituel, ils se croyaient très spirituels, très pneumatiques, très gonflés. Des surdoués spirituellement parlant, et ils avaient la fâcheuse tendance à mépriser les petits, c'est-à-dire ceux qui manifestaient moins de charisme qu'eux. D'ailleurs, à un moment, je ne sais plus où, dans le coin, Paul va dire d'une manière un peu ironique, c'est un rhétoricien, « Oui, on sait, vous avez tous les dons. » On sait, à Corinthe, vous avez tous les dons. Et on le sent bien à la lecture, comme je vous le dis, Paul veut contrer cette espèce d'ego spirituel surdimensionné, et quand il parle de ses dons, il insiste toujours, il rajoute, mais il y a un seul esprit. Il y a un même Seigneur, un même Dieu. Il y a égalité sur tous ceux qui ont reçu l'esprit et ses dons. Ce n'est pas parce que tu as des dons que tu as plus d'esprit que d'autres, qui en a moins. Ce qui est la marque de l'esprit, ce n'est pas le nombre de dons que tu aurais, de dons spirituels, ni le fait que ce don soit plus sensationnel, plus spectaculaire qu'un autre. Ce qui est la marque de l'esprit, c'est de confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur. Et il le dit au verset 3, que nous n'avons pas lu, mais que je vous lis. Mais personne ne peut affirmer Jésus est le Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. La marque de l'Esprit Saint, c'est la confession de Jésus-Christ comme Seigneur, et non les dons. Nous avons un contre-exemple On a lu tout à l'heure, et ça vous peut-être éveillé des questions auxquelles je ne vais pas répondre, mais sur le don des langues et leur interprétation. Et beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, de la glossolalie, mot terrible pour parler du don des langues. Alors la définition de ce don varie selon les églises, mais plus grave, il fut un temps, où, il n'y a pas si longtemps, où ce don d'aider à l'unité des chrétiens évangéliques les a divisés. Il y avait ceux qui parlaient en langue et ceux qui ne parlaient pas en langue. Et les uns méprisaient les autres parce que ceux qui ne parlaient pas en langue n'étaient pas assez spirituels, et les autres méprisaient les uns pour leur s'opposaient aux uns pour leur sectarisme. Ce temps est plus ou moins révolu, grâce à Dieu, mais c'était l'illustration parfaite de ce qu'il ne faut pas faire avec les dons. Se diviser, se glorifier, se comparer, se mépriser, s'attaquer. Les dons sont à exercer dans l'humilité la plus absolue. Ce sont des grâces de Dieu. Je n'ai aucune raison de m'en vanter. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Le troisième mot, voilà. Activité, il apparaît au verset 6, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Et activité, dans le grec, dans la langue dans laquelle a été écrit le Nouveau Testament, c'est énergéma, qui a donné le mot énergie, le mot énergumène aussi. Un gars plein d'énergie, qui gesticule, énergumène. Le don spirituel, c'est une capacité, une énergie à faire quelque chose de particulier, un domaine où on est particulièrement énergétique ou particulièrement doué. Et tous les chrétiens sont appelés à encourager, à évangéliser, à donner de leurs biens. Et il faut le faire. Mais certains le font plus naturellement que d'autres, plus facilement que d'autres, avec une énergie ou une passion particulière. Ça ne veut pas dire que pour eux, tout va couler de source et qu'il n'y aura pas d'obstacle, mais ceux qui sont doués pour ce domaine particulier et qui exercent dans l'Église ce domaine particulier, ils vont le faire avec une certaine passion et ils vont s'y sentir bien, ou du moins, ils vont y trouver leur place. Et puis, dernier terme, toujours dans le texte, le mot « service », en grec « diakonoi », qu'a donné le mot « diaconie », le service. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Les dons spirituels sont donnés pour le bien commun, on l'a lu tout à l'heure, pour le service de tout le monde. J'aime, on en a parlé hier à Aventure Formation, ce texte d'un Pierre 4:10. Puisque chacune, it is written, c'est marqué, a reçu un don, mettez-le au service de Dieu en bon intendant de la grâce, encore, la charis, si diverse de Dieu. C'est Pierre qui parle. Mettez-le au service, il ressort clairement donc que les dons servent à servir. Certainement pas à épater la galerie, mais pour le service. C'est pas tout d'avoir les dons, des charismes. S'ils ne sont pas utilisés dans un esprit de service, ils sont comme inutiles. Ils peuvent même être très dangereux. Rien de plus triste que de voir quelqu'un de doué pour servir se servir de ses dons pour s'affirmer. Il n'y a rien de plus beau et de plus efficace dans l'Église de voir quelqu'un doué mettre ses dons au service des autres. Dieu aime le service et l'esprit de service. Alors, on pourrait parler beaucoup de cet esprit de service dans notre monde. On a des histoires à raconter, des guichets spécialement où l'esprit de service ne règne pas. Mais parfois, je pense que ces personnes derrière le guichet qui sont là pour nous servir, en ont tellement reçu de la part de clients qu'il se ferme aussi. L'esprit de service se perd, et peut-être pas seulement chez les autres, mais qu'en est-il de mon esprit de service ? En tant que chrétiens qui avons reçu l'esprit et les dons qui vont avec, est-ce que nous considérerions la possibilité de nous mettre à servir, à exercer dans l'Église nos dons, pneumatikoi, charismata, énergumen, diaconoi ? À chacun peut-être de se poser la question et peut-être de s'y mettre à servir. Il y a dans notre Église qui grandit doucettement beaucoup de besoins dans tous les domaines, et ne pensez surtout pas qu'elle peut tourner sans vous. L'Église a besoin de vous autant, au moins autant que vous avez besoin d'elle. Alors je voudrais terminer en donnant quelques pistes pour trouver, pour découvrir et exercer les dons. D'abord, rester connecté. Le mot est populaire aujourd'hui, hein. On est bien connecté, mais là, connecté avec Dieu, avec l'amour du Père, avec la grâce du Fils, avec la communion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui produit aussi en nous le fruit de l'Esprit. Selon Galates 5:20, la patience, la maîtrise de soi, l'amour, le fruit de l'Esprit. Rester connecté pour découvrir, exercer ses dons à ce fruit de l'Esprit. Avant d'exercer le don, ou il faut exercer son don, en cultivant le fruit de l'Esprit. Rester connecté avec l'Esprit et le fruit de l'Esprit, parce que si on exerce les dons de l'Esprit sans être une personne transformée de l'intérieur par l'Esprit, alors on est comme une cymbale qui résonne dans le vide. Il ne manquait aucun don aux Corinthiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais par contre, il leur manquait l'essentiel, le fruit de l'Esprit. Et Paul leur dit, vous êtes bien fournis au niveau des dons, mais il vous manque du fruit. Et ce déséquilibre est dangereux, et Paul va écrire le chapitre 13, que l'on verra plus tard, pour montrer l'importance du fruit de l'Esprit dans l'exercice des dons. Il faut rester connecté à l'esprit d'amour. Et puis, être connecté avec les autres. Il ne s'agit pas de s'isoler avec son petit ou ses plusieurs dons spirituels et de s'autoproclamer prophète de la ville de Cannes ou évangéliste et de partir comme franc-tireur sur la Côte d'Azur. Non, notre texte parle du corps, de cette interdépendance des membres de ce corps, de cette solidarité entre les membres du corps. Et le corps bouge et il va dans la bonne direction si chaque membre tient compte des autres. Que le pied gauche soit en accord avec le cerveau droit. Vous savez, il y a un croisement au niveau des nerfs, au niveau de la nuque. C'est le cerveau droit qui commande la partie gauche. On sent bien quand il y a un AVC. Le corps ou la communauté est essentiel en ce qui concerne la découverte et l'exercice des dons et même l'évaluation des dons. Tout cela se fait ensemble. Et une bonne idée, ce serait peut-être d'en parler avec votre petit groupe d'amis, les groupes de maison, par exemple. Tiens, qu'est-ce que tu crois que c'est mon don ? Tu confirmes, je sens que c'est ça, etc. Et puis, troisième conseil, tout petit, hein, rester équilibré, rester humble, tenir compte des disponibilités et de ses limites. Il y a des périodes de la vie où on est plus disponible que d'autres. Et puis, il faut tenir compte des risques de chaque don. Par exemple, celui ou celle qui a le don de la foi. On l'a lu tout à l'heure, le don de la foi. La foi pour déplacer les montagnes ou du moins quelques collines. Eh bien, ils doivent se rappeler, ceux qui ont ce don de la foi, et j'en connais une en particulier, qui n'est pas là pour me regarder avec ses grands yeux, mais doivent se rappeler que ceux qui parlent de manière réfléchie et qui aiment un petit peu planifier ne manquent pas nécessairement de foi. Il y a un risque pour ceux qui ont un don de surévaluer le don et puis de regarder les autres qui n'ont pas ce don-là comme manquant de foi. Celui qui a le don de prophétie doit se garder de l'orgueil qui peut le rendre exigeant et décourageant pour les autres. Parce que pour chaque don, il y a des excès possibles, il faut rester équilibré. Et puis, rapidement, rester sensible aux besoins et aux changements. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'Église qui ne correspondent pas spécialement aux dons, mais il faudrait les faire quand même. Ne soyons pas trop limités en disant « le ménage, ce n'est pas mon don, donc je ne vais pas faire le ménage ». Sensible au changement aussi, les choses changent. Et même doué, il faut pouvoir s'adapter et se former. On se forme pour la sono, par exemple. Hein? C'est pas le don, il y a une formation, il y a un désir, il y a une sensibilité à l'égard de l'effort à fournir. Qui dit don ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler pour être encore mieux serviteur. Restez concentré sur la finalité, rendre gloire à Jésus dans son Église et dans le monde. C'est tellement important de rester concentré sur le but parce que dans toute cette histoire, l'important, ce n'est pas le don lui-même. Ce n'est pas comment je l'exerce. Ce n'est pas ce que j'en pense et ce que les autres pensent de moi. L'important, enfin c'est important, mais c'est périphérique. L'essentiel, c'est Jésus qui soit glorifié dans ma vie, dans son Église, dans le monde. Amen. Et puis, dernier petit conseil en passant, restez actif. Même si on ne connaît pas bien ces dons spirituels, même si c'est la première fois de votre vie que vous entendez parler de ces dons spirituels, ça arrive, il ne s'agit pas d'attendre d'être sûr, certain, convaincu de ce don pour commencer à servir. C'est justement en commençant à servir, à être disponible, que les dons de Dieu vont être de plus en plus clairs. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit un semi-remorque de quelques tonnes. Moi non plus, mais il paraît que c'est très difficile de faire tourner un camion quand il est à l'arrêt. C'est dans le mouvement qu'on parvient à trouver la bonne direction et donc la règle d'or, keep on moving, continuer à avancer. Je conclue, j'ai trouvé une image magnifique pour parler de l'Église avec ses dons qui sont mis au service. Les pyramides humaines qui sont, paraît-il, des spécialités catalanes, de la Catalogne. Ça s'appelle le castel en catalan veut dire le château. Et donc, il y a de 6 à 10 étages. Et là, j'ai compté, il y en a 9. Moi, j'en ai vu une, mais pas en Catalogne, c'était au Pays Basque, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça ne s'invente pas, ces gens-là. Et c'est vertigineux, plus de 15 mètres de haut pour les plus hautes. Et alors, j'imagine, pour notre Église, on va mettre les plus costauds en bas. On va mettre Diego avec Pascal, on va mettre Fabrice, hein, à la base, là, en bas. Et puis, on va mettre des étages, les moyens, les mi-lourds, on va les mettre au milieu. Je suis en bas aussi. Hein, quand même. Et puis en haut, qui on va mettre en haut? Moi, j'ai pensé à Noélie, la deuxième fille des filâtres de Marc et Maggie, hein, qui m'a l'air de peser très peu. Bon, enfin, il faudra demander une décharge aux parents pour qu'elle monte à 15 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est en catalan... Ah, tiens, mais... Excusez mon catalan qui est un peu rouillé, mais... Forza, equilibri, valori e seni. De la force, de l'équilibre, du courage et du bon sens. C'est génial, ça. La castelle, le château de Dieu, la pyramide de Dieu, cette construction qui s'élève et qui s'édifie dans l'amour, eh bien, il faut de l'équilibre, il faut de la force, il faut du courage et il faut du bon sens. On a parlé tout à l'heure de rester équilibré. Et cela, oui, m'a fait penser à l'Église, un lieu de service où l'on exerce ses dons avec courage, avec la force que Dieu nous donne, avec l'équilibre du Saint-Esprit, un lieu où chacun joue son rôle en étant solidaire dans l'amour. Et parce que tout le monde est bien en place, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et Paul va le dire à une autre église, à l'église d'Éphèse, « De lui, le corps tout entier, bien coordonné, s'élève dans l'amour. » Avec une pyramide, mais un peu plus artistique. C'est pas des Catalans, là, c'est des danseurs, je suppose, ou des acrobates. Avec, moi, ce qui ressort de cette photo, c'est la grâce. Quelle grâce! C'est beau, c'est gracieux. Il y a de la grâce. J'imagine que c'est la grâce de Dieu. De lui, le corps tout entier, bien coordonné, s'élève dans l'amour. Et la grâce, c'est un mélange d'amour et de pardon, selon moi. Ça, c'est l'Église que Dieu voit. Un truc efficace dans l'amour, qui s'élève, qui grandit. C'est ce que Dieu prévoit. Et vous savez, saint Augustin disait, Dieu donne ce qu'il ordonne. Et Dieu ordonne, commande, appelle à une église qui s'élève, qui témoigne de lui, un laboratoire d'amour, un lieu de grâce, un lieu d'accueil, un lieu de croissance. Et il nous donne ce qu'il ordonne. Il nous donne les dons spirituels, les charismata, pour le faire ensemble, pour le bien commun et pour le témoignage dans ce monde. Est-ce que vous voulez y prendre part? Est-ce que vous voulez trouver une place dans ce service, une place où on se sent bien, parce qu'on était appelé à ça? Dieu voulant, en 2025, nous allons vous proposer un petit parcours pour vous aider à discerner votre ou vos dons, pour les mettre, pour pouvoir les exercer, pour pouvoir les manifester. C'est une belle aventure en perspective. Soyez là en 2025.